Plusieurs d'entre nous se souviennent que j'ai raconté une histoire pour les enfants qui mettait en scène un vieux monsieur chinois, un vieux paysan chinois. Ce vieux paysan chinois habitait tout près de la frontière avec la Mongolie. Et ce vieux paysan avait une belle jument blanche dans son parc. Un jour, cette jument a sauté la barrière et elle est partie. Alors ses voisins et ses amis sont venus le voir en lui disant « Misère, ça c'est une mauvaise nouvelle pour toi, tu as perdu ta jument ». Et le paysan chinois répondit « On ne sait pas, c'est peut-être une bonne nouvelle ». Ses amis étaient un petit peu étonnés de sa réponse. Mais quelques jours après, la jument est revenue avec un cheval. Et ils sont rentrés tous les deux, ils ont sauté la barrière, ils sont rentrés tous les deux dans le parc. Au lieu d'avoir un cheval, il y en avait deux maintenant. Alors ses amis sont venus, ils ont dit « Hey, mais ça c'est fantastique, c'est une bonne nouvelle, voilà que tu as deux chevaux au lieu d'un, ça c'est une bonne nouvelle ». Et le paysan a dit « On ne sait pas, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ». Alors ses voisins et ses amis étaient vraiment troublés, ils avaient du mal à comprendre comment ils voyaient la vie, cet homme-là. Un certain temps a passé, le fils de ce paysan s'est dit « Il va falloir que je monte ce cheval ». C'était encore un jeune cheval, alors il a essayé de l'apprivoiser, il a passé du temps avec lui, et puis un jour, il est monté sur son dos. Mais ce jeune cheval n'a pas du tout aimé ça. Il a donc jeté son cavalier par-dessus bord, et le jeune est tombé, il s'est cassé une jambe, il a été très très mal blessé. Ses amis sont venus de nouveau et lui ont dit « Mais ça c'est une mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe qui t'arrive ». Et le paysan a dit « Mais on ne sait pas, c'est peut-être une bonne nouvelle ». Là, vraiment, ses amis ne savaient plus quoi penser de cet homme qui voit les choses à l'envers. Un mois plus tard, la guerre a éclaté entre la Chine et la Mongolie. Et les recruteurs sont venus dans les villages pour prendre les jeunes gens et les emmener à la guerre. Les recruteurs sont venus dans le village de ce paysan. Et les jeunes gens ont été emmenés pour aller à la guerre. Aucun d'eux n'est revenu. Mais le fils de ce paysan chinois qui était alité, qui était fracturé, n'a pas été emmené à la guerre. Il est le seul qui a vécu dans son village. Bonne nouvelle ? Mauvaise nouvelle ? On se pose la question. Et vous savez, quand il est question de la foi, on se trouve parfois dans cette situation où on se demande bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? La foi semble parfois dépasser notre logique, notre manière de comprendre les choses. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons une liste impressionnante d'hommes et de femmes qui ont marqué par la puissance de leur foi dans l'histoire et qui sont considérés comme des héros de la foi. Quand on parle de la foi, on pense immédiatement à Hébreux, chapitre 11. Et là, nous a donné une définition de la foi. Au verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et dans la suite du chapitre, on a la liste incroyable de tous ces hommes et de ces femmes qui se sont manifestés par une foi particulière. Mais quand vous lisez ce chapitre, vous finissez en vous demandant finalement c'est quoi la foi ? Regardez un petit peu à quoi ça ressemble, Hébreux chapitre 11. Par exemple, au verset 4, il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Et vous vous souvenez que Abel va être tué par son frère Caïn à cause du sacrifice de foi qu'il a fait. Verset 5 « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parût point parce que Dieu l'avait enlevé. Par la foi, Abel meurt, par la foi, Enoch ne meurt pas. » Et alors on continue le chapitre au verset 7 par exemple, il est dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et vous vous souvenez que pendant 120 ans, Noé va construire cette arche, va prêcher, il est là, sans bouger, dans ce pays, pour accomplir ce que Dieu lui demande. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi, Noé reste là, par la foi, Abraham s'en va, et par la foi, il s'en va sans savoir où il va. La même foi, mais des expériences tellement différentes. Même chapitre, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Sarah, par la foi, va enfanter à un moment où c'est humainement impossible. Et il est dit au verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Par la foi, Sarah enfante un fils, et par la foi, Abraham est appelé à le sacrifier. Quelle foi ! Un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 22 par exemple, il est dit « C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » Joseph part en Égypte, et là il devient riche. Il devient le premier après le Pharaon. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Joseph est amené en Égypte et il devient riche. Moïse doit partir de l'Égypte. Et il devient pauvre. Il n'a rien. Et le texte continue, toujours au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 32, il est dit « Et que dirais-je encore ? C'est le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Voilà tout ce que ces gens ont fait par la foi, des victoires extraordinaires. Mais le texte continue, verset 36. « D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Par la foi. Par cette même foi, certains meurent, certains vivent. Par cette même foi, certains partent, d'autres restent. Et c'est quoi cette foi ? Et on se demande, mais enfin, est-ce que moi j'ai cette foi-là ? Et quelle foi est-ce que j'ai ? Foi en quoi ? On se demande, ai-je la foi ? Pour nous, la foi, finalement, c'est notre capacité de voir Dieu dans nos circonstances, voir la main de Dieu qui agit dans nos vies. Notre foi s'attache à ça. Mais j'aimerais vous suggérer qu'il s'agit là d'une foi que j'appellerais une foi de circonstances. Cette foi est attachée à l'exaucement de nos prières. Elle est attachée à l'action que Dieu va avoir dans nos circonstances. Mais finalement, quand on y pense, la foi de circonstance est extrêmement fragile. Elle est très fragile pour plusieurs raisons et j'aimerais en mentionner quelques-unes. La foi de circonstance est très fragile parce que la vie est inconséquente et imprévisible. Et nous avons parfois l'impression que Dieu est aussi comme ça. Le texte qu'on a lu nous a montré qu'une même foi peut produire des expériences totalement différentes, des résultats totalement opposés pour une même foi. Et vous savez comment nous sommes promptes à développer des habitudes. On essaye de trouver la formule qui marche, la formule qui marche pour une santé spirituelle. Alors, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église. 1, 2, 3, c'est la formule. J'applique la formule et je dois aboutir à santé spirituelle. Je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église. 1, 2, 3. Résultat, santé spirituelle. On essaie de faire la même chose avec les autres aspects de notre vie. On essaie de trouver la bonne formule. Pour la santé physique, je fais de l'exercice, je mange bio, je dors assez, en bonne santé. J'applique la formule, en espérant que ça marche. Et pour la famille, c'est la même chose. Je fais le culte de famille, je corrige mes enfants, je fais l'école à la maison, la famille parfaite. Et quand j'applique la formule et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive à ma foi? Alors on prend des livres pour s'encourager. On prend un livre, par exemple, de Pavel Goya, où sa vie est une multiplication de miracles les uns sur les autres. Et on se dit, mais voilà, ça c'est la foi. La foi d'un homme qui, par exemple, se trouve en Norvège, dans un pays étranger, loin de chez lui, mais ses enfants ne peuvent pas venir. Et il dit, non, ça c'est pas correct, je dois avoir mes enfants avec moi. Alors il dit à Dieu, Seigneur, je te prie pendant un mois. Si dans un mois mes enfants ne sont pas là, c'est moi qui pars. Et il prie pendant un mois. Et le dernier jour de ce mois, ses enfants arrivent avec le visa signé par le roi de Norvège. Waouh, ça c'est la foi. Ou bien alors, il rencontre une jeune fille qui est à peine croyante, tatouée de la tête aux pieds, qui croit pratiquement à rien, qui cherche, et lui dit « Va donner des études bibliques. » « Je ne sais pas donner des études bibliques, moi. »« Va donner des études bibliques. » Il lui donne un feuillet et lui dit « Va porter ça à telle adresse. » La jeune fille y va, elle sonne, ça ne répond pas. Elle attend. On répond. Elle donne l'étude biblique. Les gens regardent, reçoivent ça. C'est ce qu'on attendait. Un groupe d'études bibliques se fonde là et on baptise tous ces gens. Waouh ! Ça, c'est la foi. Et vous lisez ensuite un livre de Joseph Kider, où vous avez la même chose. Une église de 15 membres qui devient une église de 500 membres, en un rien de temps. Et vous dites, ah, ça, c'est la foi, mais quelle foi ? Parce que vous avez encore des églises de 15 membres quelque part. Vous avez encore des gens qui prêchent et pour lesquels il n'y a pas de réponse. La vie est imprévisible et inconséquente. Et le jour où j'applique la formule et que ça ne marche pas, alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu ? Jusque-là, la formule marchait. Tout d'un coup, elle ne marche plus. C'est qui a le problème ? C'est moi ou c'est Dieu ? Quelle foi ! Donc la foi de circonstance, elle est très fragile parce que la vie est inconséquente et imprévisible. Et puis une deuxième raison pour laquelle la foi de circonstance est très fragile, c'est que nous avons beaucoup de mal à interpréter les circonstances. Nous voyons le présent et nous n'avons pas la capacité de voir la fin dès le commencement. Notre vision est extrêmement étriquée, notre vision est très limitée, notre perspective des choses est finalement très étroite sur les événements et il nous est difficile de les lire comme il faut. Et vous avez probablement vécu cette expérience-là. Demandez à un jeune enfant, « Est-ce que ton père t'aime ?» Réponse, « Non. » « Pourquoi ?»« Ah ben parce que mon papa, il m'a emmené chez le dentiste et là, ils m'ont fait mal, ces gens-là. » Et puis mon papa, il m'a ramené une deuxième fois chez ces gens qui font mal, il m'a mis sur le siège, il m'a laissé tout seul avec ces gens, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec moi. Vous croyez que c'est un papa qui aime ses enfants, ça ? Vous allez voir le père. Et vous lui demandez, est-ce que t'aimes tes enfants ? Ben oui, j'en prends soin le mieux que je peux. Vous vous rendez compte la différence de perspective qu'il peut y avoir ? Et puis, ça vous est arrivé aussi, comme à moi, de vivre quelque chose et de vous dire « Mais ça, c'est terrible, c'est une catastrophe épouvantable. » Et 10 ans après, vous y repensez et vous vous dites « C'est en fait la meilleure chose qui a pu arriver dans toute ma vie. » Nous avons du mal à lire et à comprendre les événements de la bonne manière. Notre lecture est imparfaite, notre lecture est limitée, notre lecture est étroite. Notre perspective est très courte. Donc notre foi de circonstance est extrêmement faible aussi. Une troisième raison pour laquelle notre foi de circonstance est faible, c'est que notre notion du temps est particulière, elle est très courte, elle ne correspond pas à la notion du temps pour Dieu. Nous prions et nous disons à Dieu, « Seigneur, tu as 2 jours pour répondre, tu as 2 semaines, tu as 2 mois. » Après ça, il faut que ça arrive. Seulement, nous nous regardons à notre montre et Dieu tourne les pages du calendrier, un calendrier qui a des pages éternelles. Nous ne vivons pas dans le même temps, dans le temps que Dieu a. Dieu vit hors de ce temps-là et tout d'un coup, Quand Dieu n'entre pas dans notre temps, alors à ce moment-là, on a tendance à évaluer la situation d'une façon un peu particulière et de ne pas comprendre. Est-ce que je crois encore? Nous avons dans la Bible des exemples impressionnants. Nous lisons l'histoire de ces hommes de foi dont on parlait tout à l'heure. Je pense à Joseph, par exemple. L'histoire de Joseph, une belle histoire. Une histoire probablement qui s'étend sur la plus grande période de temps pour un être humain dans l'histoire biblique. Une longue histoire, presque toute une vie. Mais quand on lit le texte, on le lit en quelques chapitres et on a en quelques minutes toute la vie d'un personnage sous nos yeux. Et on est admiratif de voir la manière dont Dieu est intervenu dans la vie de cet homme. C'est incroyable. Mais quand on lit comme il faut, on se rend compte entre le moment où Joseph est parti en pleurant, en voyant au loin les tentes de son père, jusqu'au moment où quelque chose est arrivé, il s'est passé 15 ans. 15 ans où Dieu n'a rien dit, où Dieu n'a pas bougé, où il s'est passé rien. Et le texte nous dit que Joseph était fidèle. 15 ans de silence. Mais c'est long, 15 ans. C'est plus que 15 minutes pour lire l'histoire de Joseph. Et imaginez maintenant qu'après 14 ans, 14 ans de difficultés, d'épreuves, 14 ans de silence de Dieu, Joseph dit « J'en ai marre, j'en ai assez, je ne veux plus rien savoir, un Dieu qui ne fait rien, ça ne m'intéresse pas, je laisse tout tomber. » On n'aurait pas l'histoire de Joseph dans notre Bible, et il manquerait un élément clé dans l'histoire du peuple, parce que Joseph est un élément essentiel dans toute cette histoire que Dieu a construite pour son peuple en Égypte et sortir de l'Égypte. S'il avait réagi de cette façon-là après 14 ans de silence de Dieu, on ne parlerait pas aujourd'hui de sa foi. Et puis, l'autre exemple, nous avons du mal à voir le temps de Dieu. En 1844, beaucoup de gens ont été terriblement déçus. Ils étaient convaincus que Jésus allait revenir le 22 octobre. Des baptistes, des méthodistes, toutes sortes de gens qui étaient attachés à Dieu de tout leur cœur au point d'avoir liquidé toutes leurs affaires parce que Jésus revenait. Mais le 23 octobre, il n'était pas revenu. Et tous ceux qui avaient une foi de circonstance ont dit « Ah, c'est ça Dieu, non merci !» Et on ne les a plus vus nulle part. Il y en a juste quelques-uns qui se sont dit « Si quelqu'un se trompe, c'est pas Dieu, c'est nous. » Donc on a meilleur temps de réviser notre copie et de regarder de nouveau ce qui s'est passé. C'est pas Dieu qui se trompe, c'est nous. Et ils sont devenus les pionniers, les pères, qui ont reposé les bases de ce que nous croyons aujourd'hui. Parce qu'ils sont sortis de cette bulle humaine de temps pour ne pas fonder leur foi sur les circonstances ou celles qui n'arrivaient pas et construire leur foi sur autre chose. Nous avons du mal à concilier notre temps et le temps de Dieu. Et puis notre foi de circonstances est fragile parce que nous avons du mal à comprendre la voix de Dieu comme il faut. Vous avez sûrement rencontré comme moi des gens qui vous disent « Ah, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. » Et je leur demande « Mais Dieu t'a dit comment? Qu'est-ce que t'as entendu ?»« Ah, mais j'ai pas entendu, mais Dieu m'a dit. » »« Mais Dieu t'a dit comment ?» Parce que moi, Dieu m'a jamais parlé dans l'oreille. Il m'a parlé dans des circonstances, incontestablement, mais Dieu m'a pas dit. Moi, j'aimerais bien avoir la foi de ces gens à qui Dieu parle plusieurs fois par jour. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu es sûr que tu as bien compris? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Je comprends parfois mal la voix de Dieu. Mais écoutez, quand ma femme me parle, combien de fois je comprends de travers ce qu'elle me dit? Alors si je comprends de travers ce que ma femme me dit que je vois, est-ce que vous ne pensez pas que je peux comprendre de travers ce que Dieu me dit que je ne vois pas? Moi, pécheur, misérable, est-ce que j'ai cette capacité de comprendre comme il faut ce que Dieu me dit? Ne doit-il pas parfois me le répéter 36 fois pour que je comprenne? Alors je pense à l'histoire de Job, cet homme de souffrance. Et dans le livre de Job, au chapitre 30 et au verset 20, il y a ce cri de Job, ce cri que vous connaissez, où Job dit « Je crie vers toi et tu ne réponds pas, tu deviens cruel contre moi. » Vous lisez le livre de Job, vous n'entendez pas Dieu dire un mot jusqu'au chapitre 38. Et c'est long, ces 38 chapitres. Vous avez l'impression que Dieu n'existe pas. Et Job a exactement cette impression-là aussi. Et c'est pourquoi il dit « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Tu es cruel contre moi. » Heureusement qu'en lisant les autres chapitres du livre de Job, nous avons une idée de ce qui se passe dans le ciel. Parce que ce qui se passe dans le ciel nous explique ce qui se passe sur la terre ou ce qui ne se passe pas sur la terre. Mais finalement, quand Dieu parle, on pourrait penser qu'il va voir Job, qu'il dit « Mon pauvre Job, j'aurais voulu te parler avant, mais je n'ai pas pu. Pauvre Job, je sais que tu as souffert, écoute, je te plains. » Non, pas du tout. Il se fait encore gronder, Job. Et Dieu lui dit mais c'est qui cet imbécile qui dit des bêtises à mon propos ? Vous comprenez, ça c'est ma traduction de Job 38, verset 2. C'est une traduction un peu libre, mais c'est ça. Nous avons du mal à comprendre ce que Dieu nous dit parfois. Et c'est vrai, nous nous sommes trompés lorsque Dieu nous a parlé. Mais incontestablement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui pourraient témoigner du fait que Dieu intervient dans nos vies. Il y a des circonstances où Dieu agit d'une façon claire et nette, et je pourrais vous en donner des exemples personnels, nombreux aussi. Mais nous devons reconnaître que ces moments où Dieu agit d'une façon précise dans nos vies sont souvent des moments par lesquels Dieu veut initier, démarrer notre foi. Mais pas nécessairement que ces moments deviennent la base, le fondement de notre foi. Notre foi, autrement dit, doit s'appuyer sur autre chose, parce que parfois Dieu ne répond pas dans la limite de temps que nous comprenons. Parfois oui, parfois non. Dieu ne répond pas nécessairement par des événements que nous attendons, pour lesquels nous avons prié. Parfois oui, parfois non. Parfois Dieu fait sentir sa présence, mais parfois non. Je pense à Élie qui se sauve et qui attend la voix de Dieu dans le feu, dans le tremblement de terre, dans un miracle extraordinaire dont il vient être le témoin. Et Dieu le prend à contre-courant complètement et lui parle dans le silence. Alors ma foi, si elle s'appuie sur les circonstances, un jour elle va s'effondrer. Parce que ces circonstances, elles ne sont pas, elles ne peuvent pas être le fondement de ma foi. Vous comprenez, la foi de circonstance s'ajuste aux circonstances. Elle manque cette stabilité, cette force, cette résistance dont j'ai besoin quand quelque chose ne va pas et que je cherche la solidité. Et laissez-moi vous donner un exemple. L'exemple de ce jeune qui grandit dans une famille chrétienne, qui reçoit la foi de ses parents, qui accepte la foi de ses parents, qui accepte aussi les valeurs de ses parents. Et ses parents lui disent, d'une manière ou d'une autre, « Vis de cette manière biblique et Dieu sera avec toi. » Et il le croit, et il le fait. Jusqu'au jour où il part dans la grande ville pour ses études. Et dans la grande ville, il se rend compte que les gens ne vivent pas comme il a appris à vivre. Ils ont un autre mode de vie. Et tout d'un coup, il est en conflit parce que ce mode de vie qu'il a adopté n'est vraiment pas commode pour vivre dans la grande ville. C'est un mode de vie qui n'est vraiment pas pratique. Et il se trouve tout d'un coup en conflit entre ses valeurs qu'il a reçues et les circonstances qui l'entourent, le contexte dans lequel il est, qui vit tout à fait autrement et qui le rend étranger à ce milieu-là. Alors il va finalement se poser la question de savoir quel côté il va devoir ajuster. Est-ce qu'il va ajuster son mode de vie pour se réconcilier avec sa croyance ? Ou est-ce qu'il va ajuster sa croyance pour la réconcilier avec son mode de vie ? Et mes amis, vous savez, c'est toujours dans ce sens-là que ça va. C'est ajuster notre foi de circonstances aux circonstances et au contexte dans lequel on vit. La pression sociale, nos tendances naturelles, vont entrer inévitablement en conflit avec notre foi de circonstance. Et inévitablement, nous allons modifier notre foi pour qu'elle s'ajuste au contexte dans lequel on est et pour résoudre les conflits auxquels on est confronté. Ce qui fait que finalement, ce que je crois aujourd'hui n'est plus exactement ce que je croyais hier. Et ce que je crois aujourd'hui n'est pas non plus ce que je vais peut-être croire demain, parce que le contexte va changer et je vais nécessairement devoir ajuster ce que je crois, ma foi et les valeurs qui vont avec, aux circonstances dans lesquelles je suis. Ma foi, au lieu d'avoir cet élément de stabilité, a justement cet élément d'instabilité qui s'ajuste, qui se modifie avec le temps. Et finalement, au bout du compte, je me pose la question, mais finalement, je crois en quoi ? Parce que ma foi a tellement changé au gré des besoins que je ne sais plus en quoi et en qui je crois. Alors, pour beaucoup de gens, la réponse est simple. Je crois en moi. Je crois dans la bonté de l'humanité. Mais écoutez, si je crois en moi, pécheur, faible et misérable, est-ce que c'est plus solide que croire en Dieu et dans sa parole ? Et l'humanité, l'humanité a montré autour de son histoire qu'elle était faible, misérable et non fiable à 100%. Alors j'ai foi en ça. Et c'est souvent ce en quoi on se réfugie quand finalement on ne sait plus en quoi on croit. Où est notre foi ? Parce que vous comprenez, cette foi de circonstance, elle est conçue par ceux qui en sont les adeptes comme une expérience. Une expérience de foi. C'est-à-dire quelque chose que je vois, quelque chose que je sens, quelque chose que je ressens, une prière exaucée. Ou bien c'est quelque chose que je peux comprendre, qui rentre dans mon cadre de pensée. Une expérience, quelque chose de senti, de vécu. Seulement le jour où je ne sens rien, où je ne vois rien, et où cette expérience de ma vie n'a pas de sens pour moi, que devient ma foi alors ? Si la foi est une expérience, alors elle est fragile. Et puis, si c'est ça, je vais essayer de créer l'expérience. On va essayer de créer l'expérience par une sorte de style de culte particulier, avec un style de musique particulier, avec un genre de christianisme particulier qui va créer l'expérience. Et je ressors avec une belle expérience. Et je pense que c'est la foi. Puis je suis confronté après aux circonstances, et je me dis, mais finalement, je crois en quoi ? Si bien que la recherche des outils pour créer l'expérience est une forme de christianisme extrêmement superficielle et dangereux, parce qu'à force de vouloir créer l'expérience, je crée quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi. Alors, ma foi, elle s'appuie sur quoi ? Je pense à cette épître aux Hébreux où nous avons regardez le chapitre 11 tout à l'heure. Les gens à qui cette lettre est adressée vivent véritablement une crise de foi. L'apôtre Paul, parce que je pense que c'est lui qui a écrit cette lettre, s'il ne l'a pas écrite de sa main, il l'a en tout cas inspirée ou dictée. Ces gens sont en réalité des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Mais c'est des gens qui sont à cause de cela confrontés à une crise de foi colossale parce qu'ils ont vécu un judaïsme qui est vieux maintenant de 1500 ans, qui est bien implanté, qui s'est cristallisé autour des fêtes, autour des cérémonies, autour des habitudes, autour des dogmes. Et voilà que Jésus arrive et Jésus met tout par terre, Jésus renverse tout, ce qui était pour eux synonyme de stabilité, et on leur dit « voilà, Jésus est l'accomplissement de tout le reste, maintenant tu vis autrement ». Il passe véritablement par une crise de foi profonde. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vivre le judaïsme, y ajouter le christianisme, enlever l'un, rajouter l'autre. Beaucoup d'entre eux se disent « mais je crois en quoi maintenant ?» Et l'apôtre Paul, dans cette épître, essaye de leur montrer sur quoi ils doivent appuyer leur foi. Et il y a plusieurs passages, mais permettez que j'en prenne un. Un texte dans l'épître aux Hébreux, où l'apôtre Paul leur montre d'une façon claire votre foi, mes amis. Ce n'est pas sur une doctrine, sur une habitude, sur une circonstance que vous devez l'appuyer. Il le dit au chapitre 4 et au verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Il est écrit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. L'apôtre Paul est en train de leur dire, notre foi ne s'appuie pas sur quelque chose d'hypothétique, sur quelque chose de hasardeux. Notre foi s'appuie sur ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un Sauveur. C'est là-dessus que notre foi s'appuie. Et il est présenté d'une façon particulière. Il est présenté comme Jésus, le Fils de Dieu, le grand souverain sacrificateur. Et on comprend que pour être grand souverain sacrificateur, ce dont l'Épître aux Hébreux nous parle, ce Jésus doit par conséquent accomplir tout son ministère pour nous. Il est descendu du ciel, sacrifice suprême. Il a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix pour nous. À cause de tout cela, il est ressuscité, il est remonté au ciel. Et maintenant, il continue à lutter et intercéder pour le salut de ses enfants. Tout son ministère est compris dans ce titre qui maintenant est le sien dans le ciel. Tout ce que Jésus a fait, voilà la base de notre foi, parce que c'est ce que nous avons, pas ce que nous aurons, mais ce que nous avons, basé non pas sur une idéologie, mais sur des faits, ce que Jésus a fait, de sorte que nous avons aujourd'hui un Sauveur. Et l'apôtre Paul leur dit, à cause de ça, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La foi s'appuie d'abord sur ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est Jésus, notre Sauveur. Vous vous souvenez qu'à un moment, l'apôtre Paul a supplié Dieu. Ça nous est rapporté dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. L'apôtre Paul a supplié Dieu de le délivrer d'un problème. Et la réponse de Dieu, vous la connaissez. Au verset 9, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Autrement dit, Dieu lui dit, « Écoute, l'essentiel, tu l'as. Tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, tu es sauvé en Jésus-Christ par la foi que tu mets en lui. L'essentiel, tu l'as. Parce que la vie éternelle, il te la donne. Maintenant, le reste, laisse faire, je m'en occupe. » Notre foi ne peut pas s'appuyer sur les circonstances, sur les prières exaucées, sur ce que l'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce que l'on sent, qu'on ne ressent pas. Notre foi s'appuie sur ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. C'est là-dessus que s'appuie notre foi. Maintenant, s'il plaît à Dieu de nous donner le reste, ce sera la cerise sur le gâteau. Amen.